Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue, merci d'être à notre écoute. La compassion est une question d'humanité. Avant d'être croyants, nous sommes appelés à être humains. C'est par ces mots que peut se résumer la catéchèse du pape ce mercredi 28 mai, deuxième audience générale de Léon XIV, centrée sur la péricope du Bon Samaritain. C'était en présence de plus de 40 000 pèlerins présents sur la place Saint-Pierre. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi à Maurice, dans l'océan Indien, où le diocèse de Port-Louis, en accord avec le gouvernement, a lancé le processus d'écoute des personnes en situation précaire pour les assises de la pauvreté prévues en novembre prochain. Il y a exactement 50 ans, le 28 mai 1975, 15 pays ouest-africains s'accordaient pour rétablir la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous irons au Nigeria où sont réunis les chefs d'État de la région pour les festivités marquant cet anniversaire. Ce sera dans l'actualité sociopolitique. La figure du pape Léon XIII a suscité beaucoup d'intérêt depuis l'avènement du pape Léon XIV et sa référence à son encyclique Rerum Novarum. Ce pontife qui compte pourtant d'autres encycliques notables, desquelles deux, In Plurimis et des catholiques et ecclésiés qui ont beaucoup contribué dans la lutte contre l'esclavage en Afrique. Nous en parlerons avec Elisabeth Bruyère, docteur en droit et chercheuse en histoire contemporaine à l'université de Leuven en Belgique. Ce sera tout pour les titres, les détails dans quelques instants.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendekere.
La compassion est une question d'humanité. Avant d'être croyants, nous sommes appelés à être humains. C'est par ces mots, nous le disions, que peut se résumer la catéchèse du pape ce mercredi 28 mai. Pour sa deuxième audience générale sur la place Saint-Pierre, le Saint-Père a encouragé les fidèles à imiter le Samaritain qui s'arrête simplement parce qu'il est un homme devant un autre qui a besoin d'aide. Plus de détails avec Jean-Benoît Harel.
Eppure la pratica del culto non porta automaticamente ad essere compassionevoli.
La pratique du culte ne conduit pas automatiquement à la compassion. Tel est le constat que pose Léon XIV à partir de la parabole très connue du bon samaritain, sujet de sa catéchèse aujourd'hui. Car la compassion, poursuit-il, avant d'être une question religieuse, est d'abord une question d'humanité. Le Saint-Père interpelle alors les fidèles, avant d'être croyants, nous sommes appelés à être humains. Mais pour être humain, pour ressentir de la compassion, il faut avant tout savoir s'arrêter, comme le fait le bon samaritain.
Chi pensa che il proprio viaggio debba avere la priorità non è disposto a fermarsi per l'altro.
Celui qui pense que son propre voyage est prioritaire n'est pas prêt à s'arrêter pour un autre. Bien qu'en voyage, le Samaritain pourtant prend du temps pour soigner le blessé et le déposer dans un hôtel, des gestes concrets, souligne le souverain pontife. Si l'on veut aider quelqu'un, on ne peut pas rester à distance. Il faut s'impliquer, se salir, peut-être se contaminer, insiste-t-il. Et seulement alors nous comprendrons que nous sommes aussi cet homme blessé et roué de coups, et que celui qui vient nous relever, c'est le Seigneur. Le vicaire du Christ a terminé sa catéchèse en encourageant les fidèles à prier pour grandir en humanité, afin que nos relations soient plus vraies et plus riches de compassion.
Così che le nostre relazioni siano più vere e più ricche di compassione.
Le Saint-Père a nommé évêque de Wesso en République du Congo le père Brice Armand Ibombo du clergé des Gamboma, jusqu'à présent vice-recteur du Grand Séminaire National de Théologie Émile Cardinal Biaenda de Brazzaville. Né à Abala dans les diocèses de Gamboma en 1973, Monseigneur Ibombo a fait ses études de philosophie au Grand Séminaire philosophique Monseigneur Georges Firmin Singa de Brazzaville et de théologie au Grand Séminaire de Concordia Pardenone à Italie. Il a obtenu un doctorat en histoire de l'Église à l'Université pontificale grégorienne de Rome. Parmi les multiples charges et responsabilités qu'a porté le nouvel évêque dans son exercice sacerdotal, nous pouvons noter qu'il a été secrétaire de la Conférence épiscopale du Congo de 2013 à 2023. Autre actualité depuis le Vatican, un nouveau missel en langue gaise pour les églises d'Érythrée et d'Éthiopie. La présentation a eu lieu mardi 27 mai au Collège pontifical éthiopien du Vatican. Ce nouveau missel est une source d'espérance pour les fidèles et le clergé, a déclaré le cardinal Claudio Guggerotti, préfet du Dicaster pour les églises orientales, qui a assuré sa publication. En ces temps difficiles pour l'Éthiopie et l'Érythrée, le nouveau missel en langue gaise est une source d'espérance, de capacité à survivre et à rêver, qui est la racine de l'existence d'un peuple, a déclaré le prélat, exprimant ainsi l'espoir que ce livre liturgique puisse être une source d'union pour les fidèles des deux pays. À Maurice, dans l'océan Indien, le diocèse de Port-Louis a lancé le processus d'écoute des personnes en situation précaire pour les assises de la pauvreté prévues en novembre prochain. Samedi dernier, une dizaine de témoignages se sont exprimés devant des citoyens, des représentants de l'État et l'évêque Jean-Michel Duron. Depuis Maurice, le reportage de Jean-Luc Moutoussamy.
Sous ce gymnase du couvent de Lorette de Rosil défilent des témoins, des vies brisées, des vies raccommodées, qui s'expriment pendant 2 heures et secouent les cœurs. Une pauvreté pas seulement matérielle, constatera en conclusion l'évêque de Port-Louis, Mgr Jean-Michel Duron. Attentif, il note, aux côtés du ministre de la Sécurité sociale, tous les détails de ce que vivent des Mauriciens qu'on n'entend pas d'habitude. Au micro, des adultes venus livrer leur douleur et aussi celle des sans-voix, des enfants privés d'amour. C'est là que commence la pauvreté. C'est ce qu'estime Marie-Agnès. Elle est de l'action familiale.
Chaque enfant a besoin de sentir qu'il compte, que sa voix mérite d'être entendue, qu'il a de la valeur. Et ce sont ces petites choses humaines, simples mais puissantes, qui changent une vie.
When I am down and though my soul so weary.
Parmi ceux qui ont osé s'exprimer en musique, cette fois d'anciens détenus, Jean-Claude, Clifford et Jerry disent avoir tenu bon grâce à l'Église, leur famille et quelques rares mains tendues, dont celle d'un ancien commissaire de prison. D'autres cris de pauvres de Maurice seront entendus jusqu'en novembre pour ces assises de la pauvreté. Jean-Luc Moutoussamy, Port-Louis, pour Radio Vatican.
Et au Tchad, l'archevêque de N'Djamena, Mgr Edmo Djitangar, a lancé un appel à l'unité nationale et la paix sociale dans leur pays, face à ce qu'il qualifie de discours et des actes dictés par les égoïsmes et la haine de la part de certains acteurs politiques du pays. C'était à l'occasion de la célébration du jubilé des catéchistes de l'archidiocèse de N'Djamena. La correspondance d'Edouard Takadji.
Rendre grâce à Dieu pour le nouveau successeur de Saint-Pierre, le pape Léon XIV, mais aussi fêter le jubilé des catéchistes, est au cœur des motifs de cette célébration eucharistique. Par ailleurs, l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Mgr Edmo Djitangar, est revenu dans son homélie longuement sur la question de la paix et de l'unité nationale.
Notre pays traverse un moment difficile pour son futur. Il y a trop de discours et des actes dictés par les égoïsmes et la haine et qui menacent notre unité et la paix entre les communautés humaines. Nous en appelons ici à tous ceux qui ont une responsabilité de gouvernement dans ce pays, à quelque niveau que ce soit, d'écouter la voix de leur cœur, la voix de leur conscience et de poser courageusement des actes de justice pour favoriser l'unité nationale et la paix sociale.
Edouard Takadji, N'Djamena pour Radio Vatican.
Place à présent à l'actualité sociopolitique sur les continents. Les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis mercredi à Lagos, au Nigeria, pour célébrer le 50e anniversaire de l'organisation. Cette célébration intervient à une période trouble pour la CEDEAO, autrefois saluée comme un pilier de stabilité dans la région. À Abuja, la correspondance d'Ishaka Adegboye.
Le traité fondateur a été signé à Lagos le 28 mai 1975, créant officiellement la CEDEAO. L'objectif principal avait pour but de promouvoir la coopération économique et l'intégration régionale. Grâce à cette dynamique, un marché commun estimé à plus de 700 milliards de dollars s'est constitué, touchant près de 400 millions d'habitants. Le jubilé d'or de la CEDEAO se déroule dans un contexte marqué de fortes turbulences internes, le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso, tous confrontés à des transitions politiques militaires, révèle une fracture profonde au sein de l'organisation. Ce départ collectif remet en question la cohésion régionale et affaiblit l'autorité de la CEDEAO. Au défi majeur, la création d'une monnaie commune baptisé l'écho qui tarde à être exécuté après un demi-siècle d'existence. En dépit des défis, la CEDEAO demeure un pilier de la coopération régionale. Cheka Deboyé, Radio Vatican, Lagos.
Amnesty International a accusé mardi le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda de tuer et torturer des civils détenus illégalement dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un rapport publié mardi, Amnesty affirme avoir interrogé 18 civils détenus illégalement dans des centres du M23 à Goma et à Bukavu, dont 9 avaient été torturés par des combattants du M23. Selon Amnesty, ces civils se disent avoir été accusés par le M23 de soutenir l'armée ou le gouvernement congolais, de travailler avec la société civile, de cacher ou posséder des armes, ou encore de dénoncer les exactions commises par ce groupe armé. La Libye peine à retrouver la stabilité depuis le soulèvement de 2011 qui mit fin à 42 ans de règne de Muammar Kadhafi. Plusieurs centaines de Libyens se sont rassemblés samedi à Tripoli, siège du gouvernement d'unité nationale reconnu par l'ONU, pour lui apporter leur soutien après deux manifestations massives ayant réclamé son départ en raison de combats meurtriers dans la capitale il y a une douzaine de jours. Pour sortir de cette nouvelle crise, il faut repenser un nouveau processus politique plus transparent et plus inclusif, estime Virginie Colombier, professeure à l'université Luis Guido Carli de Rome et spécialiste de la Libye.
Ce qui est réclamé maintenant et qui est nécessaire très vraisemblablement au niveau politique, c'est la reprise d'un véritable processus politique. Les Nations Unies sont en charge de la médiation et de tenter de proposer une sortie de crise. Mais depuis 2 ans, on n'a pas vraiment de plan clair sur la table de la part des Nations Unies. Et bien évidemment, les principaux acteurs du conflit libyen profitent de ce statu quo et profitent de la situation pour continuer à s'enrichir de plus en plus. Donc ce qui est nécessaire, c'est que sur le plan des diplomaties internationales, mais aussi vraisemblablement de la population, qu'il y ait vraiment une pression qui soit exercée de plus en plus forte sur les élites politiques libyennes pour faire comprendre que le statu quo actuel n'est pas soutenable, n'est pas durable et qu'il faut repenser un processus politique qui permette de penser reprise de contrôle sur les dépenses publiques, sur l'État, sur ce que fait l'État et à terme sur des élections qui permettraient de remettre les compteurs à zéro et d'avoir un fonctionnement de l'État et des institutions, de ce qu'il en reste, qui soit plus transparent et plus inclusif.
Des propos recueillis par Augustine Asta. Le nom Léon XIV pris par le nouveau pape suscite beaucoup d'intérêt pour son prédécesseur Léon XIII, dont l'encyclique Rerum Novarum est très évoquée pour avoir jeté les bases de la doctrine sociale de l'Église. Ce pontife compte pourtant d'autres encycliques notables, desquelles deux méritent notre attention pour leur contribution dans la lutte contre l'esclavage en Afrique. Il s'agit de In Plurimis et de Catholice Ecclesiae. La première, axée sur la lutte abolitionniste, s'adressait particulièrement aux évêques du Brésil. La deuxième, qui a une plus grande portée juridique, a instauré une collecte obligatoire pour les esclaves d'Afrique. Nous en parle Elisabeth Bruyère, docteur en droit et chercheuse en histoire contemporaine à l'université de Leuven en Belgique.
Ces derniers temps, on revient beaucoup sur le pontificat de Léon XIII, qui reste dans les mémoires comme un pape qui s'est beaucoup intéressé à la question sociale. Aussi, c'est un pontificat qui a eu beaucoup de facettes différentes. Et moi, dans mes recherches, je me suis intéressée à la lutte anti-esclavagiste et aux différentes encycliques qu'il a publiées à ce sujet, notamment d'une part In Plurimis, qui s'adresse aux évêques du Brésil, où il prend fait et cause pour la lutte abolitionniste. Il y démontre que l'esclavage est contraire au dogme chrétien, et ce document est davantage un document doctrinal. Il y a un autre document qui est un peu moins connu, qui s'appelle Catholique Ecclésiae, et qui est un document qui a une plus grande portée juridique, si je puis me permettre, puisqu'elle instaure une collecte obligatoire en faveur de la libération des esclaves d'Afrique.
Donc, deux écrits, l'un beaucoup plus juridique et l'autre beaucoup plus doctrinal. Et quel a été alors le point de départ, hein, c'est-à-dire deux parties, Léon XIII, qu'est-ce qui l'a poussé pour s'engager dans cette lutte contre l'esclavage avec des catholiques ecclésiés surtout? D'où est-ce qu'il est parti?
Donc c'est véritablement son contact avec le cardinal Lavigerie, qui a été lui-même témoin des marchés d'esclaves du nord de l'Afrique. Le cardinal Lavigerie a créé une société missionnaire, les missionnaires d'Afrique, qui sont appelés plus couramment sous le nom de Père Blanc.
Père Blanc.
Et les Pères Blancs qui ont été envoyés dans le centre de l'Afrique ont eux aussi été témoins de l'esclavage, esclavage de raids, de capture, de véritable chasse à l'homme et de marché humain. Et donc ces récits ont véritablement beaucoup ému le pape, ça se voit dans les documents qu'il a écrits à ce sujet. Et en même temps, par conséquent, sa vision du continent africain va être très stéréotypée. On peut aussi regarder, on peut aussi jeter un œil à sa lettre à l'archevêque de Cologne, aussi en 1890, où il parle de peuple malheureux, de peuple meurtri par la barbarie et l'abjection du vice, et il parle aussi de misérables africains. Et donc cette vision un peu du continent africain va rester, je pense, très longtemps dans les mentalités européennes comme un peuple vraiment misérable.
Et donc le pape Léon XIII a voulu combattre cette mentalité. Et vous l'avez dit, vous êtes chercheuse en histoire et dans l'un de vos écrits, l'un de vos articles, vous parlez d'une collecte de fonds annuels dénommée « subside anti-esclavagiste » ou encore collecte de l'épiphanie, instaurée par Léon XIII en 1890, sous l'impulsion du cardinal Lavigerie que vous venez d'évoquer. Combien d'années a duré cette collecte? Et à combien peut-on évaluer les montants? Et quel a été l'apport de cette collecte dans la lutte contre l'esclavage?
Alors, c'est beaucoup de questions. Donc, avec cette encyclique dont je parlais, catholique et ecclésiée, les collectes du monde entier du dimanche de l'Épiphanie sont obligatoirement destinées au continent africain. C'est-à-dire que toutes les paroisses, via leur évêché, doivent faire converger l'argent à la Sacrée Congrégation pour la propagation de la foi, qui s'appelle aujourd'hui le dicastère pour l'évangélisation. Et donc la propaganda vitae renvoie les sommes dans les différentes missions africaines. J'ai évalué, en faisant les comptes des documents en archives, à 50 millions de lires sur la période 1920 à 1939, ce qui correspond avec des calculs que j'ai essayé de faire en tenant compte de l'inflation et d'outils de conversion année après année, à 70 millions d'euros. Donc c'est de l'argent évidemment qui est divisé dans de nombreuses circonscriptions ecclésiastiques à travers toute l'Afrique subsaharienne, enfin presque, parce que certaines circonscriptions en sont exclues parce qu'elles ne dépendent pas de la propaganda fidée, comme par exemple l'Afrique portugaise, donc l'Angola, le Mozambique, Bissau. Eux ne reçoivent pas de subsides anti-esclavagistes, mais parfois vont quand même le demander, ce qui va être accordé par la propagande, parce qu'ils ont aussi envie de recevoir des fonds pour aider financièrement leur mission.
70 millions d'euros ou 70 millions d'euros, ouais. C'est quand même beaucoup d'argent, vous voyez. Et concrètement, hein, à quoi a servi cet argent?
Alors, dans un premier temps qui correspond à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, l'argent sert véritablement au rachat d'esclaves. Au rachat d'esclaves sur des marchés d'esclaves. Donc, on a des missionnaires qui prennent leur bourse et vont racheter notamment des enfants, sauver davantage de personnes des marchés d'esclaves. Avec l'occupation impériale et coloniale européenne, ce genre de marché sur le continent africain va tendre progressivement à disparaître, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des marchés clandestins, mais vraiment la traite publique va tendre à disparaître, ce qui ne veut pas dire que, évidemment, les empires coloniaux n'instaurent pas d'autres types d'exploitation par le travail.
Elisabeth Bruyère, docteur en droit et chercheuse en histoire contemporaine à l'université Leuven, interrogée par Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.